Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est un sujet extrêmement délicat, la scolarisation des jeunes enfants qui souffrent d'un handicap. On va essayer d'écouter des parents, pourquoi pas des enfants, et des professionnels. C'est le cas avec Nicolas, vous êtes enseignant spécialisé. Bonjour Nicolas.
Exactement, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Quelle est votre première réaction lorsque vous avez entendu Éric Zemmour parler de ce sujet samedi?
Choqué et en même temps content. Choqué parce que je trouve que c'est une vision passéiste de l'inclusion qui nous a un petit peu exposé ce week-end. Et en même temps content parce que je pense qu'on va pouvoir un peu parler de l'inclusion dans le débat politique actuel et ça me fait du bien.
On prolonge dans une seconde. On rappelle les titres avec Amandine.
Et elle a une de ces nouvelles fouilles menées depuis ce matin dans le Tarn autour de Cagnac-les-Mines. Dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, d'importants moyens mobilisés autour de cette ferme qui a brûlé il y a quelques mois et dans laquelle ce serait Cédric Jubilard se serait vanté d'avoir enterré son épouse. Ce sont des confidences qui ont été rapportées mais non vérifiées à un ancien de ses co-détenus. Dans l'actualité également, ce nouvel appel à la grève de plusieurs syndicats, enseignants, FSU, FO, mais aussi la FCPE, Première Fédération de Parents d'Élèves, qui appelle donc à une nouvelle grève jeudi. Le mouvement, toutefois, devrait être moins suivi que la semaine dernière, puisque le premier syndicat du primaire n'y participe pas, en tout cas pas pour l'instant. Et puis Novak Djokovic, de retour chez lui en Serbie. Le joueur numéro 1 mondial est arrivé il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant à l'aéroport de Belgrade, après avoir été, vous vous en souvenez, expulsé d'Australie. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Louis Baudin. Bon, on va essayer d'être positif, il y a quand même des chanceux dans tout ça.
Voilà, bravo Amandine, c'est vrai qu'au milieu de cette grisaille...
C'est que c'est le Blue Monday, le pire lundi, voilà. Soi-disant, de l'année. Si, c'est aujourd'hui.
Alors, c'est pour ça qu'il y a un peu de tension aujourd'hui, peut-être, dans nos échanges.
En tout cas,
le Blue Monday.
En tout cas, dans le ciel, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de nuages et quelques belles surprises. Alors, c'était attendu quand même sur les Pyrénées, les Alpes, près de la Méditerranée. Ce matin, je vous disais, là, vous aurez du grand soleil avec un peu de mistral et de tramontane. En revanche, près de la Manche, vous dites donc là, Baudin, ce matin, il était bien pessimiste parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de soleil à Cherbourg, à Lille, par exemple, encore du côté de Rouen, là, quelques belles éclaircies se développent et elles devraient résister, je pense, cet après-midi. Donc, un peu plus de soleil que prévu sur ce littoral de la Manche, ailleurs de la grisaille. Et puis, côté température, là, en revanche, pas de surprise, hein, ça restera quand même assez froid. 3 à 8 degrés dans la plupart des régions, 11 à 15 quand même près de la Méditerranée.
Bon, et ça va être comme ça toute la semaine?
Et ça va être un peu comme ça toute la semaine avec cette grisaille, ces conditions anticycloniques qui vont persister. Grisaille qui parfois se lèvera, hein, on le voit cet après-midi, il y a quelques belles surprises. Et puis à d'autres moments, quand même, ça persistera essentiellement. Jeudi même, ça sera accompagné de quelques flocons jusqu'en pleine dans la moitié est.
Mais pas encore
à Paris. Mais c'est pas encore perdu. Hein.
Chaque semaine, il va nous faire.
Oui, c'est bien d'avoir de la neige une fois dans Paris.
Ouais,
c'est bien,
c'est sympa. Attendez, l'hiver n'est pas fini.
Qu'importe le flocon.
Et ce froid, d'ailleurs, va persister hein, jusqu'en fin de semaine. Voire
oui, il fait pas très froid aujourd'hui. Il faisait 8 degrés.
C'est un froid
normal
pour la saison.
Non, il faisait 8 degrés ce matin. La semaine dernière, il faisait froid. Il faisait 8 degrés à Paris.
8 degrés, c'est la température exactement dans la moyenne.
Oui, à Paris, quand je suis parti.
C'est pas Moscou, Paris.
Bien sûr. Mais il faisait 4 la semaine dernière.
Voilà, on était en dessous des normales.
Exactement, en dessous des normales. Vous êtes très normal, vous, en cher Louis.
Dans les moyennes, parce qu'on ne va plus utiliser normal.
Merci Louis.
Merci.
Merci Louis, merci Amandine. Et merci à Ludovic van de Kerckhoff qui était au 12h30 aujourd'hui et qui me salue derrière la vitre. On va parler avec les auditeurs de ce sujet extrêmement délicat qui est la situation des enfants qui souffrent d'un handicap. C'est très large en plus, ça ne veut vraiment rien dire souffrir d'un handicap. Tellement ça peut être... large, bien évidemment. Il y a des enfants qui sont sourds, d'autres qui sont polytraumatisés, polyhandicapés plus exactement. Il y a des enfants qui peuvent être paraplégiques, qui sont autistes, qui sont trisomiques, qui sont dyslexiques. Tout ça est tellement large. Et nous sommes dans une seconde avec Nicolas.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Bon, vous êtes enseignant spécialisé. Ça veut dire quoi, Nicolas ?
Alors, je suis enseignant de l'éducation nationale et j'ai suivi une formation. Et donc, je suis capable de scolariser des élèves en situation de handicap.
Voilà. Mais alors, quel handicap ? Parce que je disais tout à l'heure, tous les handicaps ?
Alors non, moi je travaille avec des enfants qui sont en situation de polyhandicap actuellement, dans ce qu'on appelle une unité d'enseignement externalisé. C'est-à-dire que c'est une école qui vit dans l'école. C'est-à-dire que je suis dans une école classique, sur Meaux, en Seine-et-Marne, et donc j'ai une classe de 12 enfants en situation de polyhandicap au sein même de l'école, avec l'appui du médico-social.
C'est-à-dire c'est une forme d'école spécialisée, hein, pardonnez-moi
c'est
de le dire comme ça.
Mais vous avez raison, c'est une forme d'école spécialisée dans l'école. C'est les nouveaux modèles de l'inclusion, et c'est en ça que ça me chagrinait un petit peu ce débat ce week-end, c'est que aujourd'hui, l'inclusion, elle est plurielle. Il n'y a pas une forme d'inclusion, il y a des formes d'inclusion. Et on a un petit peu résumé aujourd'hui l'inclusion au modèle qu'on connaît un petit peu tous, qu'on a tous connu par le passé, c'est-à-dire un enfant qui est dans une classe. Mais il n'y a pas que ça comme inclusion. Alors moi, ce qui me chagrinait, c'est est-ce que l'inclusion aujourd'hui, c'est parfait? Est-ce qu'il n'y a pas à améliorer les choses? Si, bien sûr que si, il faut revaloriser le statut des aidants, des AESH. Il y a plein de choses à faire sur la formation des enseignants. Mais de dire qu'aujourd'hui, on remet en cause ce modèle, alors que moi, je pense justement que depuis 2005, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup bougé, et il faut encore faire des efforts, il faut encore accentuer. Moi, j'ai des parents qui aujourd'hui sont en pleurs. Ils sont en pleurs parce que jamais ils ne pensaient pouvoir emmener leur enfant à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai donné la photo de classe au mois d'octobre, j'ai eu des parents en pleurs parce que jamais ils ne pensaient avoir une photo de classe. Parce que c'était des enfants qui, avant le mois de septembre, vous voyez, c'est des dispositifs tout frais, n'avaient jamais mis un pied dans une école. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient passé leur vie dans un établissement spécialisé. Et là, aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles.
Mais d'abord, ces 12 enfants sont ensemble. Il n'y a pas d'enfants valides dans la classe.
Alors non, il n'y a pas d'enfants valides dans la classe, mais on travaille au quotidien avec les autres enfants de l'école.
C'est d'accord. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une inclusion intelligente, me semble-t-il.
Aujourd'hui, et ben voilà, c'est là où ça me chagrine un petit peu, c'est que aujourd'hui, il y a des inclusions et il y a des modèles
Ce modèle-là est incroyablement efficace parce que les enfants sont avec les valides sans doute à la récréation, au moment où
parce
ils entrent dans l'école.
On fait du sport adapté, on fait aussi de l'art visuel ensemble. On fait en fonction des profils et des compétences, on arrive à adapter et à faire des projets qui ont du sens.
Et en revanche, leurs difficultés sans doute qu'ils rencontrent fait que c'est mieux s'ils sont ensemble avec un professeur qui est plus formé, j'ai envie de dire spécialisé. Mais le handicap dont ils souffrent, vous avez dit polyhandicapé, c'est un handicap physique ou mental ?
Alors ça va être un handicap physique qui peut s'accompagner aussi de difficultés cognitives, effectivement. Donc c'est un handicap qui va être assez lourd, on ne va pas se voler la face, qui est pluriel. Mais justement, cette formation, elle est nécessaire. Donc c'est ça, en fait, que je trouve intéressant dans ce débat qu'on a aujourd'hui, c'est de dire qu'on ne peut pas, comme ça, aujourd'hui, plus personne ne remet en cause l'accessibilité dans vos locaux à RTL lorsque quelqu'un est en fauteuil. Et ben pour moi, l'inclusion, c'est pareil. C'est un principe sur lequel on a pu à débattre. Par contre, il va falloir qu'on mette les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Et le débat, en fait, ce week-end, a été un petit peu résumé à « ont-ils réellement leur place ?» Mais moi, j'ai envie de dire, on a plus à se poser cette question. Maintenant, il va falloir mettre les moyens.
Vous avez parfaitement raison de le dire. Une classe comme la vôtre, il y en a combien en France?
Alors, je crois qu'on est la troisième, vous voyez. Donc, on est sur des modèles extrêmement frais sur le polyhandicap. L'externalisation, par contre, pas sur le public polyhandicap. Il y en a déjà beaucoup plus en France depuis à peu près 2 ans.
C'est la discussion que j'avais avec M. Chapelle tout à l'heure et j'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Moi, je dis que les parents sont confrontés parfois à des difficultés où ils sont obligés de sortir leurs enfants du cadre traditionnel parce que l'école ne propose pas un accueil qui est convenable. Mais on poursuit la discussion dans une seconde. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier que je salue.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La polémique du week-end continue. Avez-vous été choqué par les propos d'Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants en situation de handicap? Des paroles sorties vendredi lors d'une discussion avec des enseignants dans le Nord.
Il faut des établissements spécialisés. Je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là. Donc je pense qu'il faut effectivement des enseignants spécialisés qui s'en occupent.
Colère de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui parle d'une déclaration pitoyable. Elle était l'invitée samedi de RTL Soir avec Vincent Parisot.
Je suis en colère, mais pas tellement surprise, parce que ce triste individu, lui, il a l'obsession de l'exclusion, en permanence. Ça a commencé, rappelez-vous, par les femmes, en les minimisant, par les homosexuels, par les étrangers. Maintenant, il s'attaque aux enfants handicapés, et demain, ça sera quoi encore? Non, ce monsieur n'y connaît strictement rien, et il est temps que ça s'arrête.
Avez-vous été choqué par les propos d'Éric Zemmour? Vous êtes parent d'un enfant en situation de handicap, comment réagissez-vous? 3210, 3210.
Il est donc 13h14, Nicolas va rester avec nous. Alors, Martha est là, et Martha représente l'association d'enfants handicapés. Bonjour Martha.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
C'est délicat forcément parce que je vais vous poser des questions qui peut-être ne sont pas faciles pour vous à répondre. Est-ce que je peux savoir de quoi souffre votre enfant ?
Alors moi, mon enfant est autiste, a un chromosome 22 en anneau, est épileptique et a eu une double arthrodèse des deux pieds. Mais donc, il est adorable, très gentil et vit dans un FAM, foyer d'accueil médicalisé pour autistes, de 20 ans à la fin de vie.
Quel âge il a ?
Il a 35 ans maintenant.
Oui, alors...
Donc, quand j'ai entendu les propos, évidemment, de monsieur, j'ai eu un choc, bien sûr, comme beaucoup de parents, mais j'avais l'impression qu'on retournait 50 ans en arrière où on ne voyait pas ses enfants. C'est très douloureux, en fait. J'ai pleuré, en fait, parce que je me revoyais il y a 32 ans, quand on s'est battu pour essayer de construire, justement, des lieux pour eux, parce que l'éducation est un droit, mais c'est vrai que tous ne peuvent pas y aller. Mais l'inclusion, mais c'est pas possible. C'est effectivement, c'est obligatoire. On ne peut pas exclure nos enfants. Les moyens ne suivent pas, que ce soit à l'école, dans les centres. La loi de 2005, c'est formidable. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de parents qui se battent pour scolariser leurs enfants. J'en ai plein, là. J'ai 3 petits, là. Mais en fait, il faut aussi une volonté de...
Une volonté politique,
de l'école,
une volonté politique d'accueillir mieux ces enfants-là. Et c'est...
Mais ils sont beaucoup mal accueillis. Si vous saviez ce que souffrent, je ne peux pas dire leur nom, évidemment, mais quand je vois ces petits-là, comment, ce que fait la maman, et souvent les mamans sont solo, et c'est un drame, en fait, et souvent l'exclusion vient de l'école elle-même. C'est ça le problème. Parce que l'accessibilité, il n'y a pas que pour les autistes ou les enfants qui souffrent de traits autistiques ou d'une maladie mentale ou de tous ces troubles qui peuvent exister. Il y a aussi le polyhandicap, comme disait Nicolas, c'est très bien. Mais il y a aussi le handicap invisible. Par exemple, vous voyez, nous, avec Autisme en Île-de-France, vient d'ouvrir une UEMA, près de Versailles, à Versailles même, hein. C'est une unité d'enseignement maternel autisme. Nous avons 7 enfants dans une classe ordinaire, dans une école ordinaire, disons. Ils ont 3 ans. Ça vient d'ouvrir le mois de novembre. Ils sont 7 gosses de 3 ans. Ça, c'est une inclusion en marche. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, et par contre, ils partagent la cour de récréation. Ils sont très bien acceptés. Il n'y a aucun souci. Il faut simplement de la volonté. Et c'est... Je ne comprends pas. Nous, ça fait 32 ans que nous nous battons pour nos enfants, surtout, évidemment, avec l'autisme, puisque j'en connais des centaines d'enfants autistes de tous les âges, des tout petits jusqu'à des personnes qui ont 60 ans.
Alors c'est vrai que depuis 2005, quand même, il y a, Marie Guéry rappelait ça tout à l'heure, il y a la loi du 11 février qui consacre le droit de tout élève handicapé d'être scolarisé en milieu ordinaire. Oui. C'est pas rien, quand même.
Non, c'est pas rien. Mais tous ne peuvent pas y aller, ça c'est sûr, on le sait.
Tous ne peuvent pas y aller parce que nous sommes d'accord, l'école ne sait pas suffisamment bien accueillir ces cas qui sont différents. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous sortez du moule, dans l'école de la République, vous êtes en difficulté.
Ah ben tout à fait. Mais moi je vais juste vous raconter une petite anecdote quand mon fils avait 3 ans. La directrice de l'école, était une cliente de mon mari, justement, c'est quand même drôle, qui a une société de matériel pédagogique. Donc, vous allez me dire, il travaillait beaucoup avec les centres, justement. Bon, ça nous est tombé dessus, c'est pas de chance, c'est comme ça. Cette directrice d'école a dit, mais votre fils Morgan, il a 3 ans, il va aller à l'école. Il va venir à l'école, il a 3 ans, il y a droit. Alors, nous, on savait, hein, bon, on a dit, bon, elle a insisté tellement, on a dit, bon, ben, alors, il est parti avec son petit cartable. Alors, il est parti, c'était adorable, vraiment. Il arrive, bon, ben, la première chose qu'il a fait, c'est de démonter tout ce qu'il y avait dans la classe. Il a tout balancé. Bon, c'est pas grave, la matinée. La deuxième matinée, bon, rebelote. La troisième matinée, on me dit, Madame Ebian, est-ce que vous voulez venir voir comment ça se passe si vous êtes là ? Alors, je suis venue. Ah ben ça, que nenni, ça marche pas. Hein. Donc, c'était pas la peine. Nous, on savait que c'était pas possible, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, cette directrice, Madame Souni, si elle m'entend, je ne sais pas. Mais je la remercierai jamais assez parce que mon fils a pu aller 3 matinées à l'école maternelle en 32 ans. Donc, il a été à l'école maternelle, mais ce n'est pas possible pour lui. Mais il faut, à ce moment-là, des moyens et du personnel pour nos enfants en grande difficulté. Mais il y a tellement d'enfants qui font des progrès en allant à l'école. Mais l'inclusion, oui, oui, oui.
Écoutez,
oui.
En même temps que nous parlons, je viens de recevoir un SMS de Michel Creton, que vous connaissez forcément, l'amendement Creton, et qui me dit « appelez-moi parce que je souhaite pouvoir intervenir sur ce dossier ». Donc la radio, c'est du direct. J'ai transmis à l'instant ce téléphone à Laurent Tessier et on va pouvoir l'appeler et pour expertiser encore ce sujet. Merci Martin en tout cas, merci beaucoup.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Éric Zemmour a dénoncé l'obsession de l'inclusion des enfants en situation de handicap. Il défend des établissements spécialisés pour les scolariser. Ses propos tenus vendredi dernier et nuancés depuis vous font réagir et ont choqué Florent Chapelle, le coprésident de l'association Autisme Info Service, papa d'un enfant en situation de handicap âgé de 16 ans.
Choqué en effet parce que c'est pas une affaire d'obsession, c'est une affaire de droit. Aujourd'hui, tout le monde a tranché, à peu près dans le monde entier. Donc aujourd'hui, qu'on soit autiste ou qu'on ait un problème de chaise roulante, on doit aller à l'école de la République. C'est le lieu, depuis la loi de 2005, c'est le lieu où les enfants doivent être éduqués.
Florent Chapelle, invité de RTL Midi. Parents, enseignants, nous vous attendons dès maintenant au standard.
Et puis du producteur au consommateur, ça va très vite dans notre émission. Michel Creton m'a envoyé un texto il y a moins de 5 minutes et il est à l'antenne sur RTL. Bonjour Michel Creton.
Bonjour Pascal Pro.
Et évidemment, le public vous connaît votre visage puisque vous êtes un comédien célèbre depuis tant d'années. Je rappelle que l'amendement Creton est une mesure dérogatoire qui permet de maintenir les enfants de plus de 20 ans en établissement médicaux éducatif. Pourquoi souhaitiez-vous intervenir, Michel Creton, sur l'antenne ?
Je vous avais croisé un jour et vous m'avez dit appelez-moi et si vous avez besoin. Et vous m'aviez donné un téléphone, je l'ai fait et puis ça n'a pas marché, mais je voulais vous tenir au courant des événements. Ça fait 56 ans que je m'en occupe. Alors, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se dit, et tout à l'heure, votre monsieur Chapelle, je crois, a dit qu'il y avait 3 établissements et qu'il était très...
C'était Nicolas qui disait ça, d'ailleurs, qui vous écoute, qui est enseignant spécialisé. Oui. Et Nicolas, il dit, il y a 3 simplement classes, c'est pas établissement, c'est 3 classes qui fonctionnent comme la sienne, c'est-à-dire vous avez des élèves qui sont polyhandicapés dans la classe et ils sont ensemble à l'intérieur d'un établissement classique.
Lorsque le président de la République est arrivé, j'ai fait un courrier au président. Je vous dis simplement la première phrase. Je disais tout simplement, Monsieur le Président, avec vous, l'espoir renaît. Et lorsque j'ai reçu une réponse de son chef de cabinet, François-Xavier Loche, je lui ai dit ce que j'avais demandé au Président, c'était d'être vigilant sur une chose, la loi de 2005. J'en suis, cher Pascal Praud, j'en suis. La loi de 2005, j'y étais. La loi de 2005 du 11 février 2005, j'y étais.
On l'a rappelé, tout élève L'article handicapé doit être scolarisé en milieu ordinaire.
Tout ce que vous dites, tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, mais il y a des choses que je suis obligé de préciser. Tout est dit dedans. Ça s'appelle l'amendement Creton.
Tout est dit, mais tout n'est pas fait. Je citais que les Ulysses s'arrête en seconde, première, terminale, qu'un enfant aujourd'hui qui est dyslexique, dyspraxique, dyscalculique et qui veut aller jusqu'au bac dans une filière générale, bah, il est obligé de quitter l'éducation nationale. Hélas !
Vous avez entendu tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait 400 000 autistes. Oui. On n'avait pas les statistiques. Cher Pascal Pro, nous avons les statistiques. Elles sont obligées d'exister, ces statistiques. Ce sont des milliers, des milliers, des milliers d'handicapés qui existent. Lorsqu'on m'a demandé d'aller voir Madame Cluzel, je suis allé la voir parce qu'on m'a... Ce sont des journalistes, des collègues à vous, des hommes politiques, des gens politiques qui m'ont demandé d'aller la voir. Je suis allé la voir. Elle m'a reçu et elle m'a dit « je suis heureuse de voir, de mettre un nom sur un visage ». Très bien. Comme elle attaquait, évidemment, dans le dur... J'ai attaqué tout de suite dans le dur. Je lui ai dit, alors puisque vous êtes dans la méthode inclusive, qu'est-ce que vous allez faire de ceux qui sont en Belgique ? On s'en occupe. Qu'est-ce que vous allez faire de ceux qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques qui ferment ? on s'en occupe. Qu'est-ce que vous allez faire des handicapés, quels qu'ils soient? Quels qu'ils soient, il faut construire, on s'en occupe. Mon amendement dit tout, c'est une phrase.
Mais vous, êtes, phrase, vous, donc, vous partagez ce que vous voulez dire, Michel Creton, c'est que l'école aujourd'hui accueille mal les handicapés en France. C'est ça que vous voulez dire.
En 88, lorsque j'ai fait voter, lorsque j'ai écrit cette loi, cette protection, il y avait trois personnages qui étaient des trisomiques, qui étaient dans l'école rue d'Aviel et qu'on allait virer. Je suis intervenu pour que Lionel Jospin fasse le nécessaire. Il a vaguement fait le nécessaire, mais ça c'était basique.
Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes d'accord que vous faites le constat?
Très bien, mais moi je vous dis les statistiques existent. Non, allez-y.
Oui, mais le constat que vous faites, c'est que l'école n'est pas toujours adaptée au handicap. C'est ça votre... aujourd'hui, à votre regret et votre constat.
Pascal Praud, je suis obligé de vous dire une chose, et pour la discrétion de la situation, c'était un journaliste connu. Son fils vient voir au théâtre. Deux jours après, il passe sous le métro. Le gosse d'une intelligence absolue. Absolue. Il passe sous le métro. 35 opérations. Garche. Il se trouve qu'il y avait un endroit, le père m'appelle et me dit il y a un endroit où on peut le récupérer, c'est-à-dire où on peut le rééduquer, c'est Kerpap. J'étais au conseil économique et social, je dis je suis à Kerpap dans 48 heures. Il est allé à Kerpap, il est revenu à Paris avec son intelligence et il avait été coupé en deux. On a voulu le remettre au lycée, on n'a pas voulu parce qu'il était handicapé. Il a fallu que son père, journaliste, très connu, et que moi intervenions pour que les gosses se chargent de lui, veuillent le prendre, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous attrapez le Covid, je le prends, et on reste, comme j'ai vu, ceux qui sont raclés du cerveau complètement. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce sont des handicapés ou ce sont... C'est tout simplement la vie. C'est-à-dire Merci. Que ce que je vous dis aujourd'hui, les statistiques existent.
Merci beaucoup Michel Creton de ce témoignage. Il est 13h29, la pause et on continue ce débat qui est à la fois passionnant et si délicat. Tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier. Parlons des frais d'inscription à l'université. Faut-il les augmenter? La question peut surprendre. Mais jeudi dernier, lors de la clôture du congrès des présidents d'université, Emmanuel Macron a fait cette déclaration.
Au-delà de la question des moyens, nous avons une question structurelle. Et on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur l'argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale.
Un discours qui a fait réagir le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot. Il était l'invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI avec Benjamin Sportouche.
C'est choquant, mais ça révèle ce qu'a été Emmanuel Macron au fond. C'est le président le plus jeune de la Ve République et c'est le président le plus anti-jeune de la Ve République.
Colère aussi de la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, ce matin sur RTL.
En fait, Emmanuel Macron, il emmerde pas seulement les non-vaccinés, il emmerde aussi les étudiants. Nous, on a dû organiser des distributions alimentaires pour les étudiants, on a eu des vagues de suicides et maintenant on nous dit qu'il va falloir payer un peu plus. Quand on parle sélection, quand on parle augmentation des frais d'inscription, c'est la vie des gens qui se joue, c'est notre avenir, c'est-à-dire qu'on va refuser à des étudiants d'étudier.
Vous êtes étudiant, racontez-nous votre quotidien. 3210, 3210.
Bon, Nicolas est toujours là, c'est notre enseignant spécialiste. Votre témoignage était formidable tout à l'heure. Hein,
je voudrais juste rajouter quelque chose, Pascal. Oui. Je voudrais bien qu'on comprenne qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme. Le modèle n'est pas parfait. Le modèle n'est pas extraordinaire, mais
il n'y a que trois classes dans toute la France, vous vous rendez compte?
Non. Il y a trois classes en création sur le polyhandicap. Ça ne veut pas dire des externalisations, il n'y en a pas d'autres sur d'autres publics. Le modèle est en construction, le modèle est en train de se parfaire. Et moi, par contre, il faut mettre devant ses responsabilités le politique. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas assez de moyens. Effectivement, on n'a pas assez d'enseignants formés. On n'a pas assez d'accompagnants qui sont bien payés, CDIsés, si je peux me permettre l'expression. Mais c'est vrai que c'est pas parfait, mais il y a quand même des progrès qui sont faits. Et je trouve que ça a résumé un petit peu ce week-end un débat à la machine n'est pas parfaite, donc on casse tout. Et ça, c'est pas entendable, parce qu'aujourd'hui, vous disiez
tout à l'heure... J'entends, Nicolas, mais convenez que depuis autant de temps qu'on en parle, je trouve sidérant que l'éducation nationale ne soit pas adaptée aux enfants qui sont différents des autres. Je trouve ça, pour tout vous dire, incroyable.
Non, mais pas à tous et pas encore assez nombreux.
Bah
on
n'est
pas
encore assez nombreux. C'est vrai qu'il y a...
Et après, on a affaire à des parents, c'est leurs enfants. Donc, effectivement, le débat, il est passionné. Et on ne peut pas avoir un débat qui va être très calme, très posé. Effectivement, on parle
Nicolas,
de leurs enfants.
Comme vous avez parlé, il faut que la parole tourne, hein, pardonnez-moi. Mais restez avec nous parce que je peux vous faire réagir régulièrement. Corinne est la maman d'un enfant autiste. Bonjour, Corinne.
Oui, bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous. Votre enfant n'est plus à l'école aujourd'hui?
Non, mon enfant est adulte et il n'a jamais été à l'école. Il y est allé à temps partiel en maternelle. Et voilà, moi, je voudrais intervenir pour dire que, bon, l'inclusion, c'est bien, mais ce n'est absolument pas possible pour la totalité des personnes handicapées. Il faut un moment avoir les deux pieds dans la réalité et admettre que ce n'est pas possible pour tout le monde. Moi, mon fils n'aurait jamais pu être scolarisé, même avec une AVS. Même, il arrive un moment, il faut se rendre à l'évidence. Donc, l'inclusion, ça fait 3 ans, là, dans le centre. Il est dans un service d'accueil de jour, donc où il y est en demi-journée, qu'on entend parler d'inclusion systématique, d'autodétermination. C'est pareil pour l'autodétermination. Moi, mon fils, il n'est pas capable. D'abord, il n'a pas de langage du tout. Et même
quel âge il a ? Il n'est pas
capable. Maintenant, il a 34 ans. Il n'est pas capable de dire ce qu'il veut faire dans la journée. Hein. Donc, l'autodétermination et l'inclusion, moi, je suis désolée, ce n'est pas valable, ce n'est pas possible pour la majorité des personnes handicapées mentales. Donc, moi, au contraire, il faudrait créer plus de centres pour recevoir ces personnes donc, qui ne peuvent pas avoir d'apprentissage scolaire. Et là où ils sont pris en charge, il y a quasiment une personne pour 2 ou 3. Donc après, il faut mettre encore plus de moyens dans ces centres, parce que je rappelle quand même que pour le Ségur de la Santé, le personnel médico-social a été complètement exclu de ce Ségur, hein, alors qu'il a fallu qu'il fasse, c'est le cas de le dire, comme d'autres à la crise Covid, pour s'occuper des personnes accueillies. Hein, et qui ont été complètement exclus du Ségur. Donc, des centres, il en faut. Je suis désolée, avec des personnes formées et qui soient peut-être un peu mieux rémunérées pour qu'il y ait la motivation pour faire ce genre de métier, parce qu'on ne fait pas ça par hasard. Hein. Moi, je sais qu'à Chambéry, par exemple, il y a un centre qui s'appelle Les Mésanges, un centre de personnes très lourdement polyhandicapées qui a failli fermer il y a quelques mois, faute de personnel.
Les propos d'Éric Zemmour, vous les avez regrettés quand même, parce que vous trouvez que c'est trop brutal, ou vous trouvez que, d'une certaine manière, ce qu'il a dit est juste et qu'il faut le dire, même si la forme peut choquer.
Moi, je pense qu'il faut le dire, parce que pour certaines personnes, l'inclusion est possible, mais elle n'est pas possible pour une grande majorité de personnes handicapées mentales.
Bah, ce n'est pas ce que semble dire Mme Cluzel. Et qui,
Écoutez, la politique, il y a eu des manifestations à Chambéry, justement, pour éviter la fermeture de centres pour polyhandicapés, entre autres, et lourdement polyhandicapés, parce que ce centre fonctionnait avec des intérimaires. Hein, et la politique de Mme Cluzel, c'est de dire, pour les personnes pour lesquelles l'inclusion n'est pas possible, les journées de prise en charge dans un centre spécialisé, ça coûte trop cher, donc on privilégie une prise en charge à domicile. Alors je ne sais pas ce que Mme Cluzel entend par prise en charge à domicile. Hein.
Mais merci de ce témoignage, parce que là aussi c'est la réalité du terrain et c'est toujours... C'est toujours très intéressant. Et puis, merci de votre témoignage. Il s'appelle comment, votre garçon, Corinne ?
Il s'appelle Romain.
Alors, il est chez vous aujourd'hui. Donc, il est dans une maison d'accueil de jour, dites-vous. Et le
pour
soir,
adulte,
il dort chez
adulte.
Vous ? Il dort chez
oui,
vous tous les soirs ?
Oui, bien sûr.
Et comment vous évaluez, comment vous parleriez de la communication que vous avez avec lui ?
Ben, Romain, bon, n'a pas de langage, mais par contre, comprend très bien tout ce qu'on lui dit. Donc, se fait comprendre. Par contre, il a des problèmes d'épilepsie aussi annexes. Donc, moi, ce qui m'a gêné un peu dans votre intervenant tout à l'heure, c'est qu'il mélangeait les périodes de loisirs où on dit on va quand même pas mettre à part dans les cinémas. Bien sûr que non. Nous, Romains, on l'a toujours emmené partout avec nous. Et c'est pas question de ça. Moi, je parle de l'apprentissage bien scolaire. Sûr. Pour certaines personnes, ce n'est pas envisageable.
Et merci vraiment.
Des solutions autres. Voilà,
merci de ce témoignage, Corinne, qui est extrêmement instructif. Merci beaucoup. À tout de suite, on va terminer avec un dernier témoignage sur ce sujet. Et puis après, nous parlerons peut-être de Djokovic et de la présidentielle, de Christiane Taubira, que sais-je, de Madame Hidalgo, de la primaire à gauche, pourquoi pas. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Un autre sujet qui pourra vous faire réagir dans quelques instants. Comprenez-vous l'exclusion de Novak Djokovic d'Australie ? Vous dites oui à 82% sur notre site rtl.fr. C'est la fin d'une longue saga autour du statut vaccinal du numéro 1 mondial. Et d'ailleurs en France, pour tous les sportifs amateurs ou professionnels, il faudra respecter le pass vaccinal. Écoutez la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
On a besoin, dès que la loi sera promulguée, d'être vacciné. Et donc ce sera valable aussi bien pour les sportifs français que pour les sportifs étrangers qui viendront en France, évidemment pour s'entraîner, mais aussi pour les compétitions sportives. On m'a parlé de Novak Djokovic au moment de Roland-Garros, donc au mois de mai. Alors on espère tous qu'au mois de mai, lorsque Roland-Garros sera organisé, que plus personne n'aura besoin de ce pass vaccinal pour entrer dans un équipement sportif.
Pas de compétition en France pour les athlètes non vaccinés. Est-ce pour vous tout à fait normal ? 32-10, 3-2-1-0.
Avant d'enchaîner sur un autre sujet, notamment parler de l'université avec Emmanuel Macron, je voudrais qu'on prenne des nouvelles de notre ami Olivier qui est là.
Bonjour Pascal et bonjour à tous.
Cher Olivier, vous avez bougé dans la régie, d'habitude vous n'êtes pas à cette plage.
Eh oui, mon ordinateur ne marche pas aujourd'hui Pascal, donc j'ai bougé.
Vous parlez de votre ordinateur, votre cerveau, vous voulez dire?
Oh non, ça fait depuis le début d'année,
non,
rien à voir.
Ne faut jamais se dévaloriser, n'oubliez jamais
un
ce
petit d'humour, un peu d'humour.
D'accord. Bon, comment ça va? On parlera de votre week-end tout à l'heure, mais pour le moment, ce sont les réseaux sociaux, que nous dit-on?
Allez, pour Sylvie, seuls les parents concernés peuvent donner leur avis. On ne peut pas se mettre à leur place. Fernand nous écrit « Certains enfants handicapés souffrent vraiment de leurs différences à l'école. C'est un fait. » Et on termine avec Tom. Éric Zemmour a au moins le mérite d'avoir mis ce sujet tabou sur la table.
Alors Emmanuel Macron, vous le savez, a fait bondir les syndicats étudiants avec ses propos sur l'université face au président de l'université la semaine dernière. Il avait évoqué une possible remise en cause du principe de quasi-gratuité. Alors nous sommes avec peut-être Gilles. Gilles,
ouais, bonjour,
Gilles, mais oui, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu.
Bah oui, mais que voulez-vous, il m'arrive aussi de travailler. Hein.
Mais vous étiez où, Gilles? Vous ne l'avez pas appelé depuis le début de janvier?
Ah, si je vous ai pas appelé, alors meilleurs vœux.
Bah oui, meilleurs vœux, bonne année à vous. Santé, etc.
Voilà, puis prospérité aussi, parce que on va dire tout ça, ça va de pair. Bon, sur la question, moi j'ai un avis qui est un peu mitigé. C'est la gratuité totale, y compris pour des étudiants qui soit ont pas le niveau, soit ont pas l'envie. Bah, je trouve que c'est pas normal. Et en fait, moi, pour l'université, je mettrais comme une sorte de prise en charge qui serait une rémunération de l'effort, c'est-à-dire au-dessus d'une telle note, on prend en charge la formation et l'hébergement. Non, mais attendez, quand vous travaillez, vous... Bah oui, sauf que les bourses, elles sont un petit peu bizarrement attribuées. Moi, je pense que je suis pour le mérite. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient aller à l'université et dont les parents peuvent pas le payer. Et je pense que les gens qui travaillent, qui se donnent de la peine, doivent être récompensés par rapport à ceux qui sont des glandeurs.
Alors, Éric Zemmour, l'information vient de tomber à l'instant. Je vous interromps. Éric Zemmour est condamné pour ses propos sur les mineurs isolés à 10 000 euros d'amende. C'est une information qui était importante puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Je vous répète cette information. Éric Zemmour est condamné pour ses propos sur les mineurs isolés à 10 000 euros d'amende. Je ne sais pas s'il va faire appel ou pas. Et il était poursuivi pour provocation à la haine.
Ouais,
pardonnez-moi de vous avoir coupé.
Ouais. Donc je reviens. En fait, je pense que l'université, l'accès aux études est une très bonne chose. Mais je pense qu'il y a soit des élèves qui n'ont pas le niveau et qui n'ont rien à y faire, soit des élèves qui n'ont pas envie d'apprendre et qui foutent rien. Et dans ce cas-là, bah, que ce soit à eux de payer, je trouve ça très normal.
Bah écoutez,
donc une bourse conditionnelle, c'est-à-dire quand vous êtes artisan, je suis artisan, bah oui. Mon revenu, il dépend de la qualité de mon travail.
Alors Gilles, moi, ce que je vais vous mettre en relation avec Victoire. Victoire est étudiante, donc vous allez pouvoir dialoguer tous les deux, parce que c'est vous avez un avis extérieur. Victoire, elle est étudiante. Bonjour Victoire.
Bonjour Pascal, bonne année.
Bonne année à vous. Victoire. Vous êtes étudiante en DUT.
Alors non, je suis étudiante en fac AES.
Ah oui, donc c'est pas du tout en
DUT. J'étais en DUT, j'ai fait 2 ans à l'IUT, oui.
Avant. D'accord. Donc aujourd'hui, vous payez combien par an de droits d'inscription ?
170 euros.
Bon, on peut dire que c'est quasiment gratuit. 170 euros sur un an, c'est quasiment gratuit.
Oui, oui, oui.
Bon, est-ce que vous trouvez que ce système est parfait ou est-ce que vous pourriez imaginer que l'université ne soit plus complètement gratuite ? Même si je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire pour Emmanuel Macron, hein, c'est assez flou.
Je pense que c'est pas envisageable en France. Pour moi, ça fait partie intégrante de la France, en fait, ce système social qui fait qu'aujourd'hui, on peut étudier gratuitement, on peut essayer de poursuivre des études. Et aujourd'hui, en plus, avec l'inflation des diplômes, on est quasiment obligé de poursuivre des études si on veut trouver un emploi, hein, entre guillemets. Donc du coup, pour moi, oui, il est nécessaire de continuer ses études et de donner la chance à tout le monde et de pas renforcer les inégalités sociales comme il est en train de le proposer un peu s'il repasserait du coup Emmanuel Macron.
Ce qui est amusant, c'est que le discours d'Emmanuel Macron est passé pratiquement inaperçu parce qu'il a été occulté par la grève des écoles. C'était jeudi 13 janvier au soir. Donc il s'est exprimé en clôture du congrès de la conférence des présidents d'université. Et c'est là, effectivement, qu'il a parlé de formidables gâchis, selon lui, parfois à l'université. 50% des étudiants seulement se présentent aux examens de première année. C'est vrai que c'est des chiffres qui peuvent nous intéresser. 50% simplement se présentent.
Oui, mais il faut regarder aussi avant pourquoi ces personnes-là ne sont peut-être pas très bien orientées. Il a proposé un nouveau système avec Parcoursup. Mmh. Et entre guillemets, c'est un échec. Moi, personnellement, je n'avais été prise nulle part sur Parcoursup. J'ai dû forcer pour être prise. J'ai eu mon DUT avec mention. Alors que si on m'avait pas donné la chance, je n'aurais pas été prise. Parcoursup, en fait, pour moi, il faudrait mieux réorienter les élèves, trouver une bonne orientation. La loi ORE n'a, pour moi, été inefficace parce qu'aujourd'hui, s'il y a 50% des étudiants qui n'arrivent pas, qui parlent de gâchis, qui n'arrivent pas à trouver leur voie, c'est parce qu'ils n'ont pas été bien orientés. Et en plus, avec le Covid et comment il a géré la crise avec les étudiants, et pour moi, c'était catastrophique. S'il avait mieux géré tout ça, je pense qu'on n'en serait pas assez.
Eh bien, Gilles et Victoire, on va continuer la discussion ensemble. Voilà également ce qu'il avait dit. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante, etc. etc. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, c'était un 17 janvier. Le 17 janvier 1933, il y a 89 ans, naissait la chanteuse Dalida. Que représente pour vous Dalida ? Faites-vous partie de ses fans ? Quelle est votre chanson préférée ?
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends
quelle
pas.
Quelle chanson ?
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir.
C'était enregistré en une seule prise, dans la pénombre. Alain Delon avait fait baisser l'éclairage, une prise. 1933, on est en 2022, elle aurait 89 ans Dalida. C'est ça qui est fou. C'est comme tous ces chanteurs morts jeunes, que ce soit Jim Morrison, mais aussi la variété française, Joe Dassin, Claude Martin, Claude François, Dalida, on les a toujours connus jeunes. Et ils continuent de vivre jeunes, puisqu'on les voit à la télé sans arrêt, à la télévision. Bon, Victoire et Gilles, on termine ce petit échange, si vous le souhaitez, sur la fac gratuite. Gilles, vous avez une question à poser ?
J'ai une question à poser à Victoire.
Je vous en prie.
Victoire, trouveriez-vous normal que la prise en charge de l'État, et je parle y compris de votre hébergement, parce que je pense que quand on veut faire des études, c'est pas seulement aller à l'école, c'est aussi manger à côté, avoir le cachet, une chambre et autres, soit en fonction du travail que vous fournissez ? Est-ce que ça vous paraîtrait pas si logique, complètement ahurissant ? Je ne sais pas, c'est une question.
Non, pour moi, oui, ça paraîtrait ahurissant. Enfin, notre logement, ce qu'on mange, ça n'a rien à voir avec les études que l'on fait.
Bah, quand vous êtes payé par la collectivité pour faire des études, si vous étudiez peu ou que vous n'avez pas de résultats, ça peut montrer ce que vous disiez précédemment, qu'il y a eu une erreur d'orientation. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est à la collectivité de payer une erreur d'orientation ?
Mais là, vous vous basez sur quoi ? Parce que par exemple, moi, je fais mes études, je loge chez mes parents, j'essaie justement de limiter les frais. Et ça n'a, pour moi, une personne qui doit étudier, c'est pas, il n'y a pas que le logement rentre en compte pour les personnes qui habitent peut-être dans des milieux très éloignés, par exemple des milieux citadins. Mais en soi, on peut tous avoir une fac qui n'est pas très très loin.
Alors, ok, je reformule ma question spécifiquement pour vous, parce que j'ai compris que vous étiez chez vos parents, donc vous n'aviez pas nécessité d'avoir une chambre, donc vous aviez moins de frais que peut-être des étudiants qui sont à distance. Mais imaginons qu'on vous dise, dès lors que vous avez 14 de moyenne, vous n'avez pas de frais d'inscription, c'est gratuit. Et qu'en gros, votre coût d'éducation soit en fonction du résultat que vous fournissez, ce qui ne serait pas complètement incohérent, peut-être.
Scandaleux, parce que moi, peut-être que mes parents m'apportent peut-être un logement, et du coup, j'ai une stabilité, donc je n'ai pas à me soucier d'autre chose, je peux me concentrer sur mon travail, et je peux attendre 14 de moyenne.
Gilles et Victoire, j'ai compris l'échange, et je vous remercie tous les deux de cet échange. Monsieur Facebook...
Là, Pascal.
Vous êtes là. Oui, vous prenez une voix caverneuse maintenant. Vous avez entendu Alain Delon chanter et ça y est.
Je tente autre chose.
Vous tentez.
J'essaie d'avoir une voix un peu rauque comme ça, mais j'y arrive pas. Oui. Allez. Pour Didier, Emmanuel Macron est un banquier qui veut que tout le système soit payant. Pour Jean-Luc, il y aurait trop d'inégalités chez les jeunes adultes. Et on conclut avec Thierry. Rendre payant l'université à ceux qui ne font rien pour y arriver serait la solution.
Restez avec nous parce que je vais vous interroger dans une seconde sur votre fameux week-end.
Oui.
Le week-end Boubouk. Mais avant cela, c'est notre ami Alphonse
Richard.
Jean-Alphonse Richard, ouais, qui est là et qui va nous parler de l'heure du crime.
L'heure du crime, mon cher Pascal, avec aujourd'hui un procès qui s'approche. Ça sera le 31 janvier à Grenoble. Procès capital et qui va sans doute rentrer dans l'histoire criminelle. C'est celui de Nordal Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys. Quel visage va montrer le Landais à ce procès important ? Il a déjà pris 20 ans, le Landais, pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Là, c'est un procès intéressant parce que le juge n'a pas pu retenir la préméditation, alors que les parents disent que c'est un prédateur qui venait à cette soirée de mariage. Il avait le but d'enlever une petite fille, peut-être, en tout cas une femme ou une fille, et il a jeté son dévolu sur la petite Maëlys. Il encourt la perpétuité, en théorie, et sûrement une peine de sûreté qui tournera, s'il est condamné, ce qui est possible, autour de 20 ans de prison. Il va avoir 39 ans, il a 38 ans aujourd'hui. Peine de sûreté de 20 ans, ça lui ferait 58 ans, voire 60 ans. C'est pas énorme, hein ? Voilà.
Oui.
Ah, déjà.
Vous m'avez cueilli par votre conclusion. Mais il est déjà condamné dans une.
Oui, pour le meurtre d'Arthur Noyer. Il a pris 20 ans de prison, mais avec une peine de sûreté autour de 13 ans. Mais là, il va reprendre, a priori. Il risque la perpétuité, peut-être une peine de rétention plus lourde.
13h58, on a le temps de faire un petit passage, Damien, ou on attend
après
le flash ?
Après le flash, Pascal.
Eh bien, c'est parfait. Dalida, c'est bien, on va faire les 5 plus belles chansons de Dalida. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 17 janvier, de sa naissance. Elle était née le 17 janvier 1933. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Le juge a suivi les réquisitions du parquet. Éric Zemmour est condamné à 10 000 euros d'amende pour provocation à la haine. Après ses propos sur les mineurs isolés, il les avait qualifiés de voleurs, d'assassins et de violeurs l'année dernière. Et à l'instant, on apprend que le candidat à l'élection présidentielle fait appel de son jugement. Novak Djokovic de retour au pays. L'avion du champion de tennis a atterri à Belgrade à la mi-journée. Ce fut bref, mais intense, Vincent Serrano.
Oui, c'est peu de le dire, Agnès, mais ça n'a rien enlevé à l'enthousiasme des supporters. Une centaine amassée ici pour saluer le retour de l'enfant de la nation. Alors des chants, des applaudissements et coup de drapeau serbe brandi le plus haut possible juste à l'entrée d'un chantier en construction, puisque c'est ici, à l'entrée VIP qui n'est pas encore terminée, que Novak Djokovic est sorti très rapidement, sans prendre la parole, pas de signe de la main visible non plus. C'est un convoi qui ensuite pris la direction du centre-ville de Belgrade où on trouvait, entre autres, son père, mère, son frère, qui sont très discrets depuis plusieurs jours. Aucune prise de parole officielle. Novak Djokovic l'a dit lui-même, il aspire maintenant à se reposer, à se faire un peu discret le temps de l'Open d'Australie, qu'il ne jouera pas. Il veut se faire en quelque sorte un petit bain. Je pense que c'est un raté vu l'accueil qu'il a eu ici. Et aussi sur la route qui va l'emmener jusqu'à Belgrade, puisque ça, je l'ai vu de mes propres yeux, le long des stations-service et de tous les arrêts, de toutes les sorties que vous avez entre l'aéroport et le centre-ville, vous aviez des dizaines de personnes, le téléphone portable à la main, pour espérer voir le retour de Novak Djokovic.
Merci beaucoup Vincent Serrano. Quelques coupures pendant la liaison puisque vous êtes en direct, je le rappelle, pour RTL à l'aéroport de Belgrade. Merci beaucoup. Le fait qu'il ne soit pas vacciné pourrait être encore un très gros problème pour lui cette saison. Le gouvernement français explique bien qu'aucun sportif, y compris professionnel, ne pourra venir jouer des compétitions qu'avec un pass vaccinal, si celui-ci s'applique à toute la population. Ils veulent plus. Plusieurs syndicats de l'éducation lancent un nouvel appel à la grève ce jeudi, mais aussi le suivant, le 27 janvier. Les annonces du gouvernement ne sont pas suffisantes pour faire face à la crise sanitaire dans les écoles. La météo demain, journée assez identique à celle d'aujourd'hui. La plupart des régions auront droit à un ciel plombé avec des brouillards fréquents le matin. En revanche, le ciel sera ensoleillé sur les Pyrénées, les Alpes et le littoral méditerranéen. L'arrivée des courses, le quintet à Pau. Il fallait jouer le 4, le 10, le 13, le 8 et le 11. Le 4, le 10, le 13, le 8 et le 11. Il est 14h03 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole. C'est tout de suite avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Djokovic, vous le savez, il est de retour en Serbie, à Belgrade. Il s'est posé il y a quelques minutes. Est-ce que c'est la fin de sa carrière? Il ne pourra sans doute pas jouer à Roland-Garros parce que Roland-Garros réclame d'être vacciné. Donc nous avions envie de connaître votre sentiment. Et nous sommes avec Jacques, bonjour, qui habite dans le Jura.
Bonjour Pascal.
Quel est votre avis?
Mon avis, moi, il est... J'adore Djoko, parce que pour moi, c'est le tennisman le plus talentueux au monde, et depuis des années et des années. Mais là-dessus, il est différent. Un pays, l'Australie, a des lois, a des règles, et je ne vois pas à quel titre... on peut déroger aux lois et aux règles. On accepte les lois d'un pays et je vois bien que notre ministre des Sports s'est raccroché aux branches tout de suite en disant finalement on va faire pareil en France. Elle l'aurait fait avant, ça aurait été mieux, mais bon, elle l'a fait après. Mais c'est... Je comprends pas Djoko. Alors autant je peux l'admirer, mais là on a fait... Alors c'est un feuilleton, depuis 8 jours quand même, on a l'impression que c'est une affaire d'État, alors que j'aurais dû faire 3 lignes. Point, il y a une loi en Australie qui interdit ceci, on l'applique, qu'il soit vacciné ou pas, c'est pas un problème, c'est son choix. D'ailleurs, comme l'a dit son ami, entre parenthèses, Nadal, il a fait un choix. Bon, il n'est pas vacciné, il savait que en n'étant pas vacciné...
Donc vous trouvez que c'est logique qu'il soit expulsé d'Australie, vous trouvez que c'est logique et que c'est une bonne chose?
Mais bien sûr, mais à quel titre Djokovic ou Pascal Praud ou Jacques Dumontel comme moi, on va aller en Australie, on va vous dire non si vous n'êtes pas vacciné.
Non, mais vous avez parfaitement raison. Tout ça s'entend, c'est une question de bon sens. Et effectivement, la règle est la même pour tout le monde, que tu t'appelles Pascal, Djokovic ou pas.
Pascal, oui. pour finir, moi j'en ai un petit peu assez de dire parce qu'on a une notoriété, parce qu'on a tel nom. On devrait être au-dessus des lois. Et puis dernière chose, par contre, j'aimerais bien savoir qui paye la note d'hôtel. Djoko ou le gouvernement australien?
Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais a priori, je pense que c'est l'Australie, puisque l'Australie l'a mis en rétention, donc l'a obligé d'être dans un hôtel qu'il n'avait sans doute pas choisi. Donc c'est plutôt l'Australie. Mais convenez que c'est un détail.
Oui, c'est un détail. Vous me direz, Djoko, c'est un détail, la note d'hôtel. Bon, je sais très bien qu'il va pouvoir s'en remettre. J'ai compris qu'il était très fatigué, mais alors très fatigué à rien faire.
Ça atteint, puis c'est nerveusement son image quand même. C'est important l'image pour n'importe quelle personnalité publique. Ouais, et là, mais... son image, elle a été extrêmement. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui disaient, tiens, avant je l'aimais bien, Djokovic, et puis qui se, comme cette pandémie, si vous voulez, est très présente dans nos sociétés, il y a des gens qui considèrent que quelqu'un qui ne se vaccine pas n'est pas loin d'être un criminel. Voilà.
Moi, je peux vous dire que je l'aimais bien et je l'aimerais toujours bien. Oui. Ça n'a rien à voir avec le sport.
Il y en a qui considèrent qu'il n'est pas à la hauteur de l'exemple qu'il devrait être. Pour tout vous dire, je ne pense pas ça, mais je m'aperçois que certains le pensent.
Vous me direz, moi je ne vais pas sur les réseaux sociaux, comme ça, ça m'évite de me faire du mal. Et j'écoute RTL, c'est beaucoup plus intéressant. Pendant que je vous ai au téléphone, il serait bien que vous fassiez votre petite enquête de votre côté concernant le monde des chevaux, où il y a des choses très graves qui se passent depuis quelques semaines, quelques mois, et on n'en parle pas, et il y a des choses très graves qui se passent.
Mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'ennuie de... Faites attention que ça ne tombe pas sous la diffamation, ce que vous allez dire.
Non, faites pas du tout. Pas du tout. Ça a été je l'ai lu, on a entendu. Il y a eu des gardes à vue, perquisitions dans l'univers des chevaux, deux pages, des chevaux qui ont été mis en quarantaine. Et renseignez-vous, au niveau de France Gallo, on a l'impression qu'il y a un peu une omerta sur le monde des chevaux.
Bon, écoutez, on va prendre le mort aux dents. Et 14h08, la pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme.
Dalida aurait eu 89 ans aujourd'hui. On a du mal à imaginer forcément ce qu'elle serait aujourd'hui. Elle est décédée en 1987 et c'est une chanson prémonitoire. Elle avait écrit cette chanson pour Monsieur Boubouk. Il venait d'avoir 18 ans.
Ah, c'était pour moi ?
C'était pour vous. Et c'est une chanson qui vous était destinée.
Ah, mais je ne savais pas.
Oui, parce que je crois aux forces de l'esprit.
D'accord.
Comme vous le savez. Mais et c'est une chanson donc, qui a passé. En fait, le temps et que vous découvrez à l'âge adulte.
Bah, je découvre surtout qu'elle était pour moi. Ça, c'est une vraie surprise.
Bien sûr. Alors, ça nous permet une transition habile, évidemment. Est-ce que vous-même, ce week-end, est-ce qu'il a été fructueux? Est-ce que, comme le héros de cette chanson, vous avez rencontré quelqu'un qui avait deux fois 18 ans? Je vous pose la question.
Écoutez, Pascal, je n'ai rencontré personne ce week-end. Personne.
Vous m'étonnez.
Mais Pascal, j'ai une bonne nouvelle.
Oui.
Je vais déménager.
Ah ben, ça fait longtemps que vous déménagez. Moi, je vous connais depuis quelques semaines et vous déménagez quasiment tous les jours, Charlie.
Après des mois de refus, mon dossier a été accepté. Je déménage à 200 mètres de chez moi.
Fichtre. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end?
Ah ben, ça, les papiers, Pascal.
Mais il n'y a pas eu une petite soirée, une petite entrevue, une petite rien du tout.
Même pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous remercie, parce que c'est en quelque sorte grâce à vous que j'ai eu l'appartement, parce que j'ai un petit peu menti à l'agent immobilier, je lui ai dit qu'on était des grands amis, vous et moi. Donc
mais nous sommes des grands amis.
Ça a pesé dans l'acceptation.
Pas, surtout.
Nous sommes des grands amis, et votre famille n'est pas venue.
Eh non, aucune famille, rien du tout.
Bon,
j'ai fait chou blanc, comme vous dites.
Bon, donc vous avez pu lire, peut-être
Oh non, même pas, vous savez.
Vous avez fait des mots fléchés. Des sudoku. Vous avez passé le temps.
Je maîtrise même pas les sudoku.
Bon, Michel est médecin. Et il nous parle de Djokovic. Bonjour Michel.
Oui,
Djokovic, c'est Djokovic, je pense d'ailleurs qu'il faut dire.
Je sais pas, je parle pas le serbe, donc bonjour Pascal Pro.
Bon, bonjour, votre sentiment sur cette affaire, cette triste affaire d'ailleurs.
Oui, enfin tout le monde tire sur l'ambulance actuellement, donc je voudrais un petit peu prendre sa défense. D'autant plus que je connais très bien l'Australie, comme j'ai de la famille en Australie, j'y vais assez régulièrement, donc je connais bien le pays. Hein, donc je suis un peu qualifié pour en parler. Alors, je voudrais dire qu'il est rentré totalement légalement en Australie. C'est ça qui me paraît incroyable dans cette histoire. Il a eu un visa, il a eu une exemption. Il n'était pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a eu trois autres, un joueur et une joueuse et un entraîneur qui sont rentrés de la même façon que lui. Et c'est sa notoriété qui lui a été fatale, puisque justement, il a eu un traitement de faveur, entre guillemets, parce qu'il était connu. Les deux autres sont rentrés sans problème. Ça, c'est un premier point. Il a été expulsé. Moi, j'ai suivi, comme je vous l'ai dit, je connais bien l'Australie, j'ai suivi en direct sur YouTube le procès. Non pas pour avoir triché ou quoi que ce soit, mais parce que il est considéré comme anti-vax et qu'il aurait pu susciter des troubles en Australie. C'était le motif officiel qu'ils ont donné. Bon, Ce à quoi ses avocats ont répondu, c'est l'inverse, c'est le fait de l'expulser qui risque de déclencher plutôt des troubles. Bon, ça c'est une chose. Allô ?
Oui, non, mais je vous écoute, oui. Michel, je vous écoute.
Ensuite, je rassure Jacques tout de suite, en Australie, vous payez votre hôtel quand vous êtes confiné, hein, c'est à vos frais. Il a d'ailleurs été condamné à payer les frais de justice. Donc là-dessus, je rassure tout de suite Jacques. Hein. Voilà, maintenant donc, c'est quelqu'un qui est très généreux, Djokovic. Il a quand même donné $1 million à l'hôpital de Bergame à l'époque du Covid. $1 million à l'hôpital de
Belgrade. Non, mais est-ce qu'on a le droit de ne plus être vacciné dans ce monde, quoi? C'est une question simple. Alors, c'est vrai que Djokovic, c'est un exemple pour certains. Et je vous disais, je voyais les réactions. Il y a des gens qui se détournent de lui. Il y a des gens... Aujourd'hui, pour certains, ne pas être vacciné, c'est quasiment être un criminel. Voilà. Pour certains. Je le vois dans la vie d'aujourd'hui. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Bien évidemment, mais on va parler d'exemplarité, on va te parler effectivement qu'il peut être un danger pour les autres dans la contamination et de ça. Bon, en même temps, les sportifs de haut niveau ont un rapport à leur physique qui est extrêmement particulier. Je pense qu'il a peur, Djokovic, que ce vaccin nuise à sa carrière. C'est aussi bête que ça.
Et surtout lui, je vous avais déjà appelé une fois à propos de l'obligation vaccinale. Et je vous avais parlé du cas de Jérémy Chardy, c'est moi le premier qui vous avais parlé.
Et bien sûr.
Bon, et que les sportifs de haut niveau sont très très sensibles.
Bien sûr.
Et qu'actuellement, il est prouvé qu'on peut continuer à transmettre le virus même si on est vacciné. Donc, le fait.
Je rappelle que vous êtes médecin. C'est important ce que vous dites parce que vous êtes médecin vous-même.
C'est pour ça que j'avais déjà appelé sur le sujet médical et que là, on est à la limite. Alors, moi personnellement, je suis plutôt pour le vaccin. Je pense qu'il a tort de s'obstiner dans sa démarche, mais ça peut se comprendre dans son cas particulier, mais qui ne présente un danger pour personne, et que sur cette affaire particulière, il est rentré légalement, et qu'il y a eu un règlement de compte politique en Australie. L'Australie qui a totalement échoué, comme je vous ai dit, je connais bien le pays, malheureusement, si je peux dire. Ils ont confiné Melbourne pendant pratiquement 2 ans, et c'est un échec total.
Parce qu'ils étaient sur Covid zéro, ce qui aujourd'hui, on est revenu de cette stratégie.
Donc, c'était son cas a été utilisé un peu pour masquer l'échec de leur politique Covid-0.
Le Premier ministre se serait refait la cerise, et pardonnez-moi cette expression un peu triviale, sur Djokovic. Il y avait aussi un aspect politique là-dedans.
Tout à fait.
Ce que j'ai lu à droite ou à gauche.
Oui, moi je vous dis, je le sais. Moi, j'ai un fils qui est marié avec une Australienne, donc je connais bien le pays, et donc c'est malheureusement le cas. Ce Premier ministre s'est un petit peu fait... Et malheureusement, l'opinion publique a été manipulée mondiale, je dirais. Il y a eu une espèce de Djokovic bashing qui est venu.
Ça dépend, je vous assure, il y a des gens... Ben, vous savez, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Il y a la parole médiatique, mais les gens ont une maturité aujourd'hui sur les infos. Et ils décodent, ils savent bien l'utilisation, l'instrumentalisation politique qu'il y a pu avoir du cas de Djokovic. Merci en tout cas, Michel. Merci beaucoup. La pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
J'attendrai le jour et la nuit.
Monsieur Boubouk, monsieur, le jour et la nuit ont un fils.
Oui.
Monsieur, le jour et la nuit.
Oui.
Monsieur, madame, le jour et la nuit ont un fils. Comment l'ont-ils appelé?
Le jour et la nuit?
Monsieur, madame, le jour et la nuit ont un fils. Comment l'ont-ils appelé?
Écoutez, parce que je ne le connais pas du tout, je ne sais pas.
Jacques-André. Jacques-André.
On se regarde tous en régie, personne n'a compris.
J'adore cette histoire, j'adore ce jeu. Jacques-André, le jour et la nuit. Jacques-André.
Ah d'accord, merci beaucoup.
Bon, Djokovic, Cédric, qui habite Bourg en Bresse. Qui est chef d'entreprise.
Pascal.
Comment ça va, Pascal? Votre avis sur Djokovic?
Ça va, ça va. Alors, mon avis, la première chose d'abord, je voudrais commencer par là. Qu'il soit vacciné ou qu'il ne le soit pas, personnellement, je m'en fous. Ben, Djokovic, pour moi, reste Djokovic. Point barre. Alors, moi, je voulais intervenir pour dire. On ne connaît pas finalement le fin fond de l'histoire, de pourquoi, de comment ça se fait qu'il a été refusé, etc. On ne connaît pas, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout lu les dossiers. Ça prend des proportions extraordinaires finalement, puisqu'on parle de complot mondial, de politique, de machin. Ça va trop loin en réalité. L'Australie, ils ont des règles. Djokovic ou pas Djokovic, il y a des règles. On respecte les règles dans le pays dans lequel on va. Si demain, il va au Cameroun, il n'est pas vacciné contre la fièvre jaune... Eh ben, il rentre chez lui. C'est la règle du pays là où on va. Donc en Australie, il y a une règle, on ne respecte pas la règle, et ben on part. Qu'on s'appelle Djokovic ou qu'on s'appelle Cédric comme moi. Je veux dire, à un moment, c'est simple.
C'est difficile, effectivement, c'est difficile de ne pas être d'accord avec vous, même si, je le répète, ça prend des proportions folles, mais c'est la règle. Le vaccin est obligatoire en Australie ?
Alors là, par contre, je ne serais pas capable de répondre.
Parce que le vaccin n'est pas obligatoire. Ce qui est absolument incroyable. Alors, il faut un pass vaccinal, ce qui est un peu différent en France. Mais par exemple, en France, le vaccin n'est pas obligatoire. Donc, s'il vient à Roland-Garros, je ne sais pas comment on fera pour l'obliger de ne pas jouer s'il n'est pas vacciné. Je ne sais pas si, dans ces cas-là, il faut un pass vaccinal si tu es étranger lorsque tu vis en France pour une quinzaine de jours. Je pense que oui, d'ailleurs.
La ministre des Sports, elle est bien revenue là-dessus. Elle a bien dit que tout sportif ou toute personne entrant dans l'enceinte de Roland-Garros devrait être vaccinée.
Oui, c'est ça. C'est le pass vaccinal pour aller dans une enceinte. Merci beaucoup, Cédric. Comme il reste quelques secondes et qu'on voulait entendre Françoise sur Dalida...
Bonjour Pascal.
Bonjour, parce qu'on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de Dalida.
Elle était mouvante, Dalida, parce que elle chantait sa vie finalement.
Oui.
Il venait d'avoir 18 ans, je veux mourir sur scène, et elle avait des grandes blessures, et quand elle avait un jeu de scène fabuleux, je suis jamais allée la voir, mais toutes les émissions de variété, elle avait des costumes fabuleux, enfin c'était un sacré personnage et une femme très malheureuse. Alors faut-il être malheureux dans sa vie pour avoir des chansons aussi belles? Je ne sais pas.
Elle est morte en 87, elle avait donc 54 ans. Hein, nous sommes d'accord.
On ne les aurait pas vu vieillir, Claude François. Enfin,
c'est vrai.
Tous ces chanteurs qui sont morts jeunes.
Bah, c'est Joe Dassin, c'est Claude François, c'est Dalida. Voilà, c'est trois chanteurs de variété française.
Ouais.
Voilà. Merci. Quelle est votre chanson préférée, Françoise?
Ah, je pense, je veux mourir sur scène. Ouais.
Tous les deux.
Il est 14h23, je vois que Jean-Alphonse est là. Vous n'avez pas aimé ma petite plaisanterie Jacques André, le jour et la nuit? Ça ne vous a pas fait rire?
Je n'ai pas entendu, surtout.
Ah bon, bah, je vous la répéterai.
Elle était sûrement très bonne.
Elle est très drôle, le jeu est toujours amusant, monsieur et madame. Ont un fils, Jacques André. Le Jacques André, le jour et la nuit, bien sûr.
Il y aura le replay dans quelques secondes.
Cher Laurent Tessier, c'est le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est la polémique du week-end, de ce début de semaine, les propos d'Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Il faut des établissements spécialisés. Je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là. Donc je pense qu'il faut effectivement des enseignants spécialisés qui s'en occupent.
Des propos qui ont choqué Nicolas Enseignant, lui qui est au contact des parents.
Quand j'ai donné la photo de classe au mois d'octobre, j'ai eu des parents en pleurs parce que jamais ils ne pensaient avoir une photo de classe. Parce que c'était des enfants qui, avant le mois de septembre, vous voyez, c'est des dispositifs tout frais, n'avaient jamais mis un pied dans une école. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais
ils avaient passé
qu'il...
leur vie dans un établissement spécialisé.
Coup de gueule aussi de Martha, son enfant est autiste.
Quand j'ai entendu les propos, évidemment, de monsieur, j'ai eu un choc, bien sûr, comme beaucoup de parents, mais j'avais l'impression qu'on retournait 50 ans en arrière où on ne voyait pas ses enfants. C'est très douloureux, en fait. J'ai pleuré, en fait.
Mais Corinne émet tout de même une réserve après toutes ces critiques.
L'inclusion, c'est bien, mais ce n'est absolument pas possible pour la totalité des personnes handicapées. Il faut un moment avoir les deux pieds dans la réalité et admettre que ce n'est pas possible pour tout le monde.
Et si on devait résumer ce sujet, toute cette polémique pour Nicolas?
Le débat, en fait, ce week-end a été un petit peu résumé à ont-ils réellement leur place? Mais moi, j'ai envie de dire, on n'a plus à se poser cette question, maintenant, il va falloir mettre les moyens.
Les frais d'inscription à l'université, voilà un autre sujet qui vous a interpellé. Emmanuel Macron avait fait cette déclaration.
On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants.
Alors je vous propose une nouvelle rubrique, chanson Damien Béchiot.
Si j'étais président de la République.
Vous, président, que feriez-vous pour les étudiants? Gilles, par exemple.
La gratuité totale, y compris pour des étudiants qui soit n'ont pas le niveau, soit n'ont pas l'envie, bah, je trouve que c'est pas normal. Moi, pour l'université, je mettrais comme une sorte de prise en charge qui serait une rémunération de l'effort, c'est-à-dire au-dessus d'une telle note, on prend en charge la formation et l'hébergement. Et je pense que les gens qui travaillent, qui se donnent de la peine, doivent être récompensés par rapport à ceux qui sont des glandeurs.
Et bien sûr, on ne va pas se quitter sans parler de l'anniversaire de la naissance de Dalida il y a 89 ans, le 17 janvier 1933. Et une petite blague, Pascal, replay.
Monsieur Boubouk, monsieur, le jour et la nuit ont un fils.
Oui.
Monsieur, le jour et la nuit.
Oui.
Monsieur, madame, le jour et la nuit ont un fils. Comment l'ont-ils appelé?
Le jour et la nuit.
Monsieur, madame, le jour et la nuit ont un fils. Comment l'ont-ils appelé?
Écoutez, parce que je ne le connais pas du tout, je ne sais pas.
Jacques-André. Jacques-André. Le
jour... Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une demande à la rédaction en chef devant en studio.
Vous avez vu le lit dodo?
Oui. D'ailleurs, on va en acheter quelques-uns pour vous.
Un lit dodo, un lit bureau dodo. Pour faire une sieste.
Ouais.
C'est sorti. C'est
votre bureau et l'endroit pour faire la sieste.
Exactement, c'est une boîte grecque qui a façonné cela. Bonjour monsieur Jean-Alphonse Richard.
Bonjour monsieur Pro.
Ah ben, bon,
transition.
On dirait Miguelito Lovelace dans les mystères de l'Ouest. Bonjour monsieur West. Vous me faites peur. Bonjour monsieur West.
Mais transition impossible avec ce que vous venez de raconter, évidemment. Là, on tombe dans un autre domaine, l'heure du crime.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, le procès de Nordal Lelandais qui s'approche à grands pas, ça sera le 31 janvier à Grenoble. Quel visage va montrer celui qui est accusé de la mort de la petite Maëlys? À tout de suite.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.